Radio Okapi.
Présenté par Grace Amzati Massansi, voici les titres. La MONUSCO condamne l'attaque ayant blessé 8 casquets bleus ce samedi à Sake au Nord Kivu par les rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise lors des affrontements avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà plus d'une année que les administrateurs des 145 territoires de la RDC ne reçoivent pas leur salaire et autres frais de fonctionnement. Dans une déclaration faite hier, ils disent être incapables de restaurer l'autorité de l'État et de faire face aux multiples défis de leurs entités respectives, faute de moyens. Notre invité est le secrétaire de l'Assemblée épiscopale de Kisangani. Monsieur l'abbé Archange Campi s'exprime sur les principaux sujets abordés lors de l'Assemblée ordinaire des évêques des 9 diocèses composant l'ex-Grande Orientale la semaine dernière, ainsi que les résolutions. À toutes et à tous, bonjour et bon dimanche. Ouvrons ce journal par cette attaque contre la position des casquets bleus à Sake, cité située à 27 km au sud-ouest de la ville de Goma, Nord Kivu. D'après un post sur X, ex-Twitter du porte-parole des FARDC dans cette province, le colonel Guillaume Njike, sept casquets bleus ont été blessés par des tirs de l'armée rwandaise qui ont ciblé la position de la MONUSCO à Sake. C'était lors des affrontements entre les FARDC et les M23 appuyés par l'armée rwandaise ce samedi 16 mars. Une attaque que condamne la chef de la MONUSCO dans un communiqué rendu public hier même dans la soirée. Jean-Désiré Kanyama.
La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Madame Bintou Keïta, condamne avec la plus grande fermeté cette attaque, ayant blessé, d'après ce communiqué, 8 casquets bleus, dont un grièvement. Ces blessés ont été évacués et reçoivent les soins appropriés. La MONUSCO, par le biais de son chef, souhaite un prompt rétablissement aux casquets bleus blessés et est disposée à soutenir toute enquête destinée à déterminer les responsabilités devant les juridictions nationales et internationales. Notez que depuis plusieurs semaines, ces casquets bleus ont été déployés dans le cadre de l'opération Springbok au Nord Kivu. La MONUSCO et les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, y mènent des actions conjointes. Toutefois, Madame Bintou Keïta réaffirme l'engagement de la MONUSCO aux côtés des forces de défense et de sécurité congolaises pour renforcer les patrouilles conjointes et unilatérales afin de protéger les populations civiles.
Merci à vous, Jean-Désiré Kanyama. Pour sa part, le secrétaire général des Nations Unies condamne également cet incident d'hier et a blessé 8 casquets bleus de la MONUSCO lors d'affrontements entre le mouvement du 23 mars et les forces armées de la République démocratique du Congo dans la région de Sake, à plus de 20 km de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. Les casquets bleus blessés étaient déployés dans le cadre de l'opération Springbok lancée en novembre pour protéger les civils dans la région. Le secrétaire général rappelle que les attaques visant les casquets bleus des Nations Unies peuvent constituer des crimes de guerre en vertu du droit international. Nous y reviendrons. Et puis, la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort est inconstitutionnelle et illustre une dérive autoritaire et un recul inquiétant du système de protection nationale des droits de l'homme. Telle est la réaction du prix Nobel de la paix 2018. Dr Denis Mukwege l'a déclaré sur son compte X ce samedi 16 mars. Tout en qualifiant cette mesure de populiste, Denis Mukwege prône l'abolition de la peine de mort. Les détails avec vous, Jacques-Yves Molima.
Denis Mukwege souligne que cette mesure qu'il qualifie de populiste est particulièrement dangereuse dans un pays où la justice est dysfonctionnelle et malade. Le déficit d'indépendance et d'impartialité du système judiciaire est notoire et la justice militaire ne prévoit pas de double degré de juridiction en violation des garanties procédurales inhérentes à un procès équitable, a-t-il renchéri. Pour le prix Nobel de la paix 2018, de nombreuses études ont démontré le caractère non dissuasif de la peine de mort. Enfin, toujours dans son tweet, Dr Mukwege dit prôner l'abolition pure et simple de la peine de mort et une réforme profonde des secteurs de la sécurité et de la justice pour, dit-il, consolider un état de droit protecteur des libertés fondamentales.
L'exécution de la peine de mort aura un impact positif dans le cadre de la lutte contre l'impunité et d'autres infractions punies par des simples faits d'emprisonnement dans la province de l'Ituri. C'est la réaction du coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise Antenne de Mambasa à la levée du moratoire sur la peine de mort. Maître Jospin Mboa, qui salue cette mesure, justifie ses propos par le fait que plusieurs criminels condamnés ne subissaient pas convenablement leur peine. Nombreux d'entre eux s'évadaient des prisons et reprenaient leurs actes criminels. Il ajoute que cette décision aura également un effet positif dans la diminution des violences armées et d'autres infractions pénales à la base des conflits meurtriers qui perdurent dans la province de l'Ituri. Maître Jospin Mboa est au micro d'Ezekiel Mouzalia.
Nous sommes vraiment d'avis favorable avec la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort parce que hier, les juges ne s'arrêtaient qu'à prononcer la peine de mort sans pour autant passer à son exécution. Ces personnes condamnées ne subissaient pas une peine proportionnelle à leurs actes criminels. Tout d'abord, la peine de mort viendra mettre fin à l'impunité que nous avons assisté depuis longtemps dans notre pays. Il y a de ceux-là qui ont été cités dans les rapports mapping de l'ONU, il y a ceux-là qui ont fait objet de condamnation à mort, mais jusqu'aujourd'hui, ces personnes sont encore vivantes et n'ont pas cessé à commettre leurs forfaits. Dans des milieux d'insécurité, dans des zones rouges comme celle de Mambasa, quelqu'un aura même peur d'aller voler les cacao dans les champs d'autrui parce qu'il sait qu'il sera assimilé à un rebelle. Et par conséquent, les sorts réservés aux criminels, ce ne sera que la mort. Vraiment, la peine de mort aura un impact positif, non seulement sur l'impunité, mais aussi sur d'autres infractions qui sont punies de simples peines d'emprisonnement.
Restons en Ituri, où les acteurs de la société civile demandent aux autorités de renforcer l'effectif de la police au quartier Hoho, épicentre des criminalités dans la ville de Bunia, mais aussi de renforcer les patrouilles dans cette partie de la ville. Ils l'ont dit vendredi après l'assassinat d'un jeune taximen vers Soukissa 2 par ses clients qui ont emporté même sa moto. La société civile qualifie cette situation d'inacceptable dans le chef-lieu de la province, siège des institutions. Placide Ushirchan, un des acteurs de la société civile en Ituri, est au micro d'Ezekiel Mouzalia.
Comme vous savez, le quartier Ho est presque divisé à 3 ou 4. Nous sommes rendus compte qu'un sérieux problème, c'est aussi le problème de la gestion sécurité de ces quartiers. Nous avons un commissariat dans le quartier Ho qui est basé ici vers le marché. Imaginez les policiers qui doivent quitter là-bas pour aller venir à Ho 3, à Mapera là-bas. Chaque jour, nous arrêtons les cas de vol. On a encore cambriolé dans une maison Europe et bilingue, toujours au quartier. Nous demandons aujourd'hui aux autorités ceci. Si elles peuvent créer des sous-commissariats dans les grands quartiers hauts, les quartiers aussi, le plan démographique est très vaste. Nous voulons aussi qu'un jour, qu'on puisse nous présenter, voilà les gens qui insécurisent les quartiers hauts. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore vu ça. Et puis de nous demander aussi aux autorités de mêler des bouclages, des armes. Les armes circulent dans la ville de Bunia comme des cacahuètes. Nous sommes dans le processus de la paix maintenant. Nous en avons marre avec l'insécurité. Alors ça fait mal, vous voyez, aujourd'hui, on tue les gens, on tue quelqu'un comme ça. Et puis sa suite, il n'y a toujours pas de suite par rapport aux gens qu'on tue.
Le commandant de la police en Ituri rassure que sa hiérarchie est déjà saisie de la requête de la population qui doit à son tour renforcer la collaboration avec la police en vue de dénicher ses malfrats. Pendant ce temps, dans la province de la Tchopo, les leaders communautaires réfléchissent sur les mécanismes de réparation collective à mettre en place après le versement par l'Ouganda des 2 premières tranches sur les 5 lui imposées par la Cour internationale de justice sur une période de 5 ans. C'est ce que stipule l'arrêt de la CIJ après avoir rendu son jugement dans le contentieux qui avait opposé ces pays à la République démocratique du Congo. Cette réflexion s'est déroulée pendant 2 jours, soit jeudi et vendredi, au centre Monaco de l'université de Kisangani. Cet atelier a été organisé par le FRIVAO, le Fonds spécial de réparation des activités illicites de l'Ouganda en RDC. Qu'est-ce qui a motivé son organisation et qu'est-ce qui en ressort? Un reportage signé Jacques Moukonkole.
Près de 100 leaders communautaires et religieux ont pris part à cette activité. Il s'agissait pour l'organisateur d'amener le public à s'approprier l'arrêt de la Cour internationale de justice ainsi que le décret du Premier ministre, deux documents de base dans le fonctionnement de FRIVAO. Mimi Moponga, secrétaire rapporteur de cet établissement public.
Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé un peu des difficultés à fonctionner puisque les gens ne comprenaient pas. Ils ont crié que nous étions venus pour distribuer de l'argent à tout le monde. Alors, on devait avoir le même entendement.
L'objectif de cet atelier est aussi de proposer un cahier de charges des activités à réaliser dans le cadre de réparation collective. Dismas Kitenge, président du groupe Lotus.
Les médecins ont proposé un scanner, un appareil de dialyse, une morgue de grande capacité. Les confessions religieuses ont présenté leur cahier de charges comprenant la construction de notre barrage, des routes, aussi les mémorials, la construction d'un centre orthopédique pour prendre en charge les personnes vivant avec handicap.
Étant donné que beaucoup de propositions se regroupent, un seul cahier de charges issu de ces différentes propositions sera transmis au conseil d'administration de Frivao pour validation. Celui-ci le transmettra à son tour au ministre de la Justice et garde des Sceaux pour entérinement. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Nous le disions dans les titres, les administrateurs des 145 territoires de la République démocratique du Congo réclament le paiement de leurs salaires et autres frais de fonctionnement de plus d'une année maintenant. Ils disent être dans l'incapacité de restaurer l'autorité de l'État et de faire face aux multiples défis de leurs entités respectives. Dans leur déclaration, ils demandent au chef de l'État de s'investir pour trouver solution à cette situation. Monsieur Sami Kalonjibadibanga, administrateur du territoire des Fizi au Sud Kivu, est rapporteur du caucus des administrateurs dans ses propos recueillis par Emmanuel Elamejo Kabedi.
Nous, les administrateurs des 145 territoires de la République démocratique du Congo, nous venons de totaliser jour pour jour une année et 4 mois sans recevoir de la part du gouvernement central le frais d'installation, les subventions pour le fonctionnement, ni notre salaire, moins encore les primes pour les services que nous rendons à la nation. Cette situation ne nous permet pas d'instaurer l'autorité de l'État dans nos entités. Alors que nous sommes censés gérer les dossiers sensibles liés au conflit coutumier, à la sécurité, à la pression dont fait face notre cher pays par les supplétifs du Rwanda, les pantins du M23. Nous, les administrateurs des 145 territoires, nous sommes délaissés, nous sommes abandonnés. Une année et 4 mois jour pour jour, pas même 10 000 francs remis à nos entités respectives par le gouvernement central. Nous vous demandons de nous venir en aide.
Dans un autre chapitre, l'augmentation salariale, la mécanisation de la prime, de la gratuité des enseignants des écoles primaires publiques, la prise en charge des enseignants non payés des écoles secondaires et bureaux gestionnaires, la mise en retraite des enseignants sont là, entre autres, les résolutions issues des travaux paritaires gouvernement-banque syndicale. Godefroy Matondo, porte-parole de l'intersyndicale des enseignants de l'EPST, l'a expliqué ce samedi 16 mars lors de la clôture des 10 travaux à Bibwa, ici à Kinshasa. Plus de détails avec Paul Matendo.
Pour Godefroy Matondo, porte-parole de cette intersyndicale, ces actions prioritaires à mener ont été listées par les deux parties sur base du crédit alloué au sous-secteur de l'éducation. Elles devront donc être réalisées pour éviter les grognes sociales, a-t-il ajouté.
Lors de nos échanges, il a été constaté que la réalisation de ces actions n'appellera pas la multiplication des grognes sociales. L'intersyndicale exhorte les gouvernements de la République de respecter les engagements pris lors des présentes assises.
Le ministre de l'EPST qui a conduit la délégation gouvernementale s'est engagé à travailler avec son collègue du budget pour l'aboutissement de ses revendications dans le meilleur délai. Tony Mwaba.
Je m'engage à ne ménager aucun effort pour assurer un suivi efficient et permanent auprès du ministère du budget et celui des finances, en vue de l'exécution sans faille de toutes les actions prioritaires en faveur de l'enseignant tel que convenu au cours de ces assises, et cela dans les meilleurs délais.
L'intersyndicale de l'EPST a également fait mention d'autres revendications lors de ses travaux paritaires, tels que la réduction des salaires des enseignants des chefs-lieux de territoire.
Paul Matendo sur Radio Okapi. Pendant ce temps, l'Union européenne étudie la possibilité de renforcer le partenariat avec la province du Haut-Katanga. Cette information a été livrée vendredi au gouverneur Jacques Kabula par une délégation de cette institution conduite par son chef de la coopération. Pour Antonio Capone, l'Union européenne participe déjà à certains projets dans la province, dont celui du domaine de l'énergie renouvelable. Il a dit au micro de nos confrères de la presse du gouvernorat des provinces. Suivi.
Mais j'ai le plaisir d'accompagner une délégation de plusieurs États membres de l'Union européenne, notamment la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suède, plus mes collègues de l'Union européenne. Nous sommes en train de vérifier avec les autorités de la province quelles sont les possibilités de renforcer notre partenariat dans plusieurs domaines stratégiques, aussi bien pour la République démocratique du Congo que pour l'Union européenne, notamment dans les domaines des transports, de l'énergie, des chaînes des valeurs agricoles. Et je suis heureux de constater que nous avons une vision partagée de quels sont les axes de développement à poursuivre. C'est pour ça que je suis suis assez optimiste sur les possibilités de développer des projets ensemble dans plusieurs domaines avec l'aide de nos États membres et des institutions financières qui nous accompagnent. Il y a des projets qui sont déjà en cours. Nous sommes en train de finaliser un projet de 10 millions d'euros pour un partenariat avec la fondation Go Congo. Nous sommes déjà présents dans certains parcs comme Lupemba. Nous participons aussi à des projets dans le domaine de l'énergie renouvelable. Il y a d'autres possibilités que nous sommes en train d'analyser. Il y a déjà des actions en cours, aussi bien de l'Union européenne que de nos collègues des États membres. Et nous souhaitons les renforcer davantage dans les années à venir.
Cette autre nouvelle, clôture ce samedi à Kinshasa du séminaire des directeurs de la Direction générale des impôts DGI sur les stratégies et actions à mettre en œuvre pour une mobilisation optimale des recettes fiscales en 2024. Durant 3 jours, les directeurs des impôts et la haute direction ont évalué les contrats de performance signés en 2023 et les résolutions adoptées l'année dernière afin de dégager les stratégies et actions à mener cette année. Explication de Jocelyne Moussaoponde.
Plusieurs résolutions ont été arrêtées à l'issue de ces assises, dont voici un extrait.
Recouvrement de l'IPR à charge des engagés locaux des missions diplomatiques et consulaires, ainsi que des représentations des organisations internationales. Mise sous surveillance des contribuables introuvables et de ceux n'ayant pas confirmé leur existence après un délai d'un mois. Intensification des contrôles inopinés et ponctuels en matière de TVA. Organisation des séances de vulgarisation des nouvelles dispositions fiscales à l'intention des magistrats et autres corporations professionnelles.
Ces intentions sont couchées dans un cahier dit des résolutions consigné le directeur général des impôts et les directeurs sectoriels de cette régie financière. Un contrat des performances a également été signé entre la Direction générale des grandes entreprises, DGE, et la haute direction de la DGI. À travers ce contrat, la DGE s'engage au cours de l'exercice budgétaire 2024 à réaliser les assignations budgétaires de 11 449 035 835 212 fonds congolais. Elle s'engage également à dépasser ses assignations budgétaire en réalisant 13 955 551 226 981 francs congolais.
Actualité internationale.
Le régime militaire au pouvoir au Niger a dénoncé samedi avec effet immédiat l'accord de coopération militaire avec les États-Unis datant de 2012 au lendemain d'une visite de 3 jours des hauts responsables américains à Niamey. Le gouvernement du Niger, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, décide en toute responsabilité de dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire du Niger, a indiqué Amadou Abdraman, le porte-parole du gouvernement nigérien, dans un communiqué lu ce samedi 16 mars dans la soirée à la télévision nationale.
L'invité.
Dans la province de la Tchopo, les évêques des 9 diocèses composant l'ex-Grande Orientale se sont retrouvés la semaine dernière en assemblée ordinaire à Kisangani. Les évêques nouvellement nommés par le pape François ont aussi assisté à cette réunion pour la première fois. Il s'agit des messeigneurs Léonard Ndjadi Ndjate, évêque auxiliaire de Kisangani, et Emmanuel Ngona, nouvel évêque du diocèse de Wamba. Quels sont les principaux problèmes abordés au cours de ces assises et que faire pour installer durement la paix dans la Grande Orientale et dans l'ensemble du pays? Le secrétaire de l'Assemblée épiscopale de Kisangani, M. l'abbé Archange Campi, s'entretient à ce sujet avec Jacques Mkongole.
Monsieur l'abbé Archange Campi, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Monsieur l'abbé, l'Assemblée épiscopale de Kisangani a tenu son assemblée ordinaire la semaine dernière. Parmi les sujets traités figure de la situation sécuritaire. Vous avez dénoncé l'insécurité grandissante. Qui en sont les auteurs?
Effectivement, les évêques de la province ecclésiastique de Kisangani se sont penchés au cours de leur réunion sur le problème de l'insécurité grandissante. Quant à savoir qui en sont les auteurs, il s'agit principalement des groupes armés locaux et étrangers qui sont actifs dans la Grande Orientale. Voilà ce que les évêques identifient comme auteurs de l'insécurité grandissante.
Parlant justement des groupes armés locaux et étrangers, est-ce que vous incluez aussi le M23 et son parrain le Rwanda?
Les évêques n'ont pas fait allusion au M23 pour la simple raison que quand les évêques se réunissent pour les réunions de l'Assemblée épiscopale provinciale, ils traitent des questions qui concernent leur province, des questions qui leur sont propres. Ils ne traitent pas les problèmes de tout le pays en général. Pour cela, ils se rencontrent à un autre niveau, notamment au niveau de la CENCO, pour essayer de traiter les problèmes qui se posent dans le pays en général. Mais ici, ils se sont limités à parler des problèmes qui sont propres à leurs 9 diocèses.
Et pourtant, monsieur l'abbé, ils sont à la base en grande partie de la situation qui est décriée par tous et dont les conséquences se font sentir également dans la Grande Orientale.
Oui, les évêques reconnaissent qu'il y a instabilité à l'est du pays, mais l'Assemblée épiscopale provinciale de Kisangani n'est pas le lieu approprié pour traiter de ces problèmes parce que, comme je l'ai dit plus haut, ici, les évêques se rassemblent principalement pour traiter des problèmes qui sont propres à leur diocèse et non pas ailleurs dans le pays.
Vous dénoncez également les gouverneurs qui fourniraient de l'assistance aux groupes armés. Avez-vous les preuves de vos allégations?
Dans leur message, les évêques s'adressent plutôt aux gouvernants provinciaux. Gouvernants provinciaux, ça signifie tous ceux qui détiennent une parcelle d'autorité au sein de chacune des 4 provinces administratives qui composent la Grande Orientale. Alors, il s'agit non seulement des gouverneurs, mais de tous les autres responsables qui ont le pouvoir de mettre fin à l'activisme des groupes armés. C'est tous ces gens-là que les évêques interpellent. Quant à savoir s'il y a des preuves en matière de ces allégations, je crois que certains rapports sont assez explicites. Les rapports reçus de différents diocèses de la province qui mentionne effectivement que le phénomène de l'insécurité est devenu un fonds de commerce pour certains qui détiennent même des parcelles de pouvoir.
Monsieur l'abbé, au cours de cette assemblée, les évêques ont abordé également des questions relatives à la situation des jeunes. Quel message leur a-t-on adressé?
Oui, les évêques tiennent beaucoup à la pastorale des jeunes. Ainsi, ils ont adressé aussi certains messages spécifiquement aux jeunes, notamment être artisan de paix, avoir l'esprit entrepreneurial et aussi s'initier à la pratique de certaines vertus importantes, notamment la prière, le travail, le vivre ensemble, le pardon, la réconciliation, l'honnêteté, le service, l'abnégation, car la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Les évêques leur demandent également de participer assidûment aux journées diocésaines et interdiocésaines qui sont organisées à leur station, parce que ce sont des occasions propices pour les initier justement à la pratique de ces valeurs humaines et évangéliques.
Enfin, que faire pour que la paix s'installe durablement dans l'espace Grand Oriental en particulier et dans l'ensemble du pays en général?
Pour que la paix s'installe durablement dans notre espace vital, c'est d'abord l'affaire de tous, bien entendu. Mais spécialement, la première autorité qui doit mettre la sécurité sur le territoire aussi bien provincial que national, c'est l'autorité de l'État. Donc, ce que je peux adresser comme souhait, c'est que l'autorité de l'État puisse s'établir sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, on pourra avoir une paix durable dans le pays et dans chacune de nos provinces.
Monsieur l'abbé Archange Campi, merci.
C'est à moi de vous remercier.
L'invité de la rédaction, le secrétaire de l'Assemblée épiscopale de Kisangani, répondait aux questions de Jacques Mkonkole. Fidèles auditeurs, ce journal touche à sa fin. Il a été coordonné et supervisé par Jacques-Yves Molima, mis en onde par Jean-Noël Mokondo-Yogo. Vous pouvez les réécouter sur www.radiocapi.net. Merci et excellente suite des programmes de la fréquence de la paix.